Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast consacré à l'actualité de l'ASM Clermont avec à mes côtés Fred Vernat, Didier Cros et Christophe Buron. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut Greg. Greg. Salut à tous.
Bonjour à tous. Et bonjour à toutes et bonjour à tous.
Oui, bonjour Didier, pardon. Cette question à propos d'un joueur qui ne fait que monter, Anthony Bello. Les prestations d'Anthony Bello ont-elles bousculé la hiérarchie au poste d'ouvreur à l'ASM Clermont? Je vais faire un tour de table. Fred?
Non.
Ok. Didier?
Ponctuellement, oui.
Ok. Et toi, Christophe?
Oui, à l'instant T, oui, mais ça peut ne pas durer.
Ok, très bien. Si, déjà, qu'on sache exactement de quoi on parle, si on doit déterminer la hiérarchie de l'ASM depuis le début de la saison en termes d'ouvreur, ce serait quoi, Christophe? On veut dire en 1?
Bah, 1, Urda Pileta, ouais. En 2, Bello, et en 3, Plisson.
Très bien.
Celle-ci, elle est établie... sur les 2-3 premiers mois, il n'y avait pas de discussion. Quoi. Ce qui a remis un peu en cause cette hiérarchie, c'est essentiellement les blessures de Urda Pileta, qui les a un peu cumulées, qui en a fait 2 ou 3 d'affilée. Et dernièrement, la dernière, ben, elle a permis à Anthony Bello de reprendre un peu le lead sur ce poste et de se montrer à un niveau qu'il n'avait pas encore montré depuis un an et demi qu'il est à l'ASM.
Alors on pose cette question bien sûr après la victoire des Clermontois à Castres. Victoire à Castres, chose rare quand même pour l'ASM Clermont, qui s'impose 23-20 avec notamment, et bien sûr les 23 points, 18 points d'Anthony Bello. Pas mal comme match pour l'ouvreur Clermontois.
Oui. Il a fait probablement l'une de ses meilleures prestations. D'autant meilleur que c'était sur un match à l'extérieur et il y a eu conclu par une victoire avec un 100% face au Perche. Donc, qui a confirmé un petit peu ses dernières prestations, notamment à Tbilissi. Là, il est sur une phase effectivement très ascendante.
Ok, les Clermontois, juste pour revenir sur cette rencontre, se sont un peu fait peur, on va dire. Ils menaient assez confortablement de 17 points. Et une petite remontée Castres qui a fait un peu peur aux Clermontois. Ils sont revenus à 20 partout, les Castres, avant côté de Nibelo. Donne la victoire sur une dernière pénalité à 7 minutes de la fin.
Alors, cette fameuse pénalité, j'aurais dire juste un petit mot, c'est là où on voit où il a peut-être franchi un cap psychologiquement. C'est qu'il il garde le but alors qu'Urda Pileta est rentré. Et là, m'a traversé l'esprit en me disant, celle-là, il ne faudrait pas qu'il la rate. Ça serait quand même un mauvais signe de...
Non, mais il n'y avait pas d'hésitation, surtout.
Ah non, mais là, c'était à lui de la prendre. Urios en a parlé, je crois. Il n'était pas question de refiler le but à Urios.
Non, mais même si Urios s'est posé la question en disant pénalité sur la droite, c'était plus pour un gaucher.
Oui, c'est clair.
Ça a été clair. Son ressenti à lui. Oui, mais c'est, en aucun cas, c'est l'entraîneur qui décide. Là,
non, bien sûr. Évidemment.
Alors, après, c'était logique que Bello la garde.
Ressenti pour un joueur aussi qui est dans son jardin. Parce que Urda Pileta, il a ses marques par
cœur. Oui, mais bon. Ça compte pas là.
Bah quand même.
Ça n'a pas de valeur par rapport à un joueur qui bute depuis le début du match et qui est à 100% et qui a surtout. Là, franchement, ça aurait été incompréhensible que Urda Pileta prenne.
Ça aurait été une forme de désaveu.
Bello l'aurait peut-être mal pris, oui.
Oui, ah bah certainement, c'était un truc pour foutre le feu dans le groupe. Là,
ouais, puis après, en tant qu'entraîneur, si Urda Pileta rate, il faut l'assumer derrière toi.
C'est clair. Ce que je trouve intéressant, moi, sur la prestation d'Anthony Bello, sur ce match et même sur les précédents, c'est au poker, on dit les tells, là, démonstration d'émotion, en tout cas, les signes qu'on donne à l'adversaire. Et lui, clairement, on voit qu'il a changé de regard, il a changé de visage.
Meilleur langage corporel.
Ouais, en fait, on sent un joueur plus en confiance. En fait, c'est tout bête, et on le voit notamment sur cette dernière pénalité. Moi, pour moi, il a pas le même regard sur cette pénalité que sur beaucoup d'autres qu'on l'a vu taper en début de saison. On sent que c'est un joueur qui a repris confiance, qui est sûr de lui, et donc il est il y a une pénalité décisive, il la prend, il la tente, il la marque, et tout va bien.
Il refait toujours autant ses lacets, par contre.
C'est vrai.
2-3 fois par match. Avant les tirs au but.
Ça, c'est les lacets ronds. On pourra y revenir. Enfin, ouais. Christophe, juste, si on se projette un an auparavant pour la première de Christophe Furios, on avait fait le déplacement ensemble, c'était à Lyon. Mm-hmm. Depuis ce temps-là, tu dirais qu'Anthony Bello, il a changé?
Oui, bah, c'est un garçon qui a changé depuis... Il était arrivé donc, un an avant, donc sous Gibbs, à l'automne 2022, oui, je crois, quand Lopez s'en va. Je voudrais dire un mot sur cette, et puis je peux même englober Plisson dans un peu dans le même sac, si je peux dire. Ces deux joueurs qui sont arrivés à Clermont, qui avaient besoin de se relancer, qui étaient en panne de confiance totale dans leurs clubs respectifs. L'un à Toulon, où ils subissaient la concurrence avec Carbonel, où le climat n'avait pas l'air terrible. Je parle de Bello. Et Plisson, qui était complètement au frigo, qui avait été mis au frigo à La Rochelle par Ogara. Donc ces deux joueurs qui viennent se relancer leur carrière, alors qu'ils ont déjà une carte de visite. Hein. Ils sont tous les deux internationaux. Ils ne le sont plus quand ils arrivent ici, mais ils l'ont été. Et ce qu'on n'a peut-être pas mesuré, ni les uns ni les autres, c'est qu'ils arrivent dans un club qui est en train de sombrer dans un marasme et donc qui a besoin de joueurs pour remonter justement le truc. Et ces deux-là n'étaient pas en état psychologique et tout, dans les bonnes dispositions pour relancer l'ASM.
Si je ne me trompe pas, en plus, le timing, au moment où il est recruté, ou en tout cas au moins au moment des négociations, Camille Lopez est encore un joueur de l'ASM. Il n'est pas question à ce moment-là encore que Camille Lopez rejoigne Bayonne.
Peut-être, oui.
À ce moment-là.
Ouais, ouais. Donc, il y avait le lourd héritage à assumer derrière Lopez. Donc, vraiment, Bello n'est pas arrivé dans les bonnes conditions, ça c'est clair. Bon, il a peut-être mis un an et demi à s'y faire, à s'intégrer petit à petit, il a eu des difficultés. Et pourvu que ça dure, quoi, que ses prestations continuent à bousculer la hiérarchie. Parce que je pense qu'Urios, même s'il a fait venir Urda Pileta, que c'est un de ses joueurs, un de ses relais privilégiés, je pense qu'il fera de cadeau à personne.
Il a joué Anthony Bello face à Pau. Alors là, c'était au poste d'arrière. Après, il a joué face à Bordeaux, face à Paris, face aux Scarlets, face aux Black Lions et face à Castres. Il enchaîne les matchs. Là, il profite de la blessure d'Urda Pileta. Donc, j'en reviens à notre question initiale. Vous dites temporairement, il bouscule la hiérarchie. Qu'est-ce qui pourrait faire que soit qu'il perde ce poste de numéro 1, soit qu'il vienne à le conserver?
Il le perdra que si il est un peu moins bien. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire que s'il reste sur un pic de forme, enfin s'il est à ce niveau-là, ça va être compliqué pour Urios de rebouleverser comme ça. Enfin, il me semble, hein, sauf sur des matchs, peut-être un match particulier, je sais pas, où il va compter sur une qualité.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que Urda Pileta a quand même donné satisfaction systématiquement.
Ah, mais ça veut pas dire qu'il a pas
quand
donné satisfaction,
il a été sollicité.
Hein, attention,
hein. Et que dans l'esprit d'Urios, à mon avis, ça reste toujours le numéro 1. Là, après, il y a un contexte très particulier d'un joueur blessé en phase de reprise.
C'est incontestable dans l'esprit d'Urios, mais pour remettre Urda Pileta titulaire, il faut que, quand même que Bello soit un peu moins bien que ce qu'il a été sur ce
match.
Il faudra un changement de séquence.
Il y aura des rotations.
Après, il peut y avoir une séquence où...
La coupure va peut-être favoriser et aider la gestion de cette question pour Urios. Je pense qu'effectivement, pour Lyon, on verra rester dans la continuité. Dans 15 jours, les choses seront probablement différentes.
Déjà, dans 15 jours, ça va bouger pour vous.
Peut-être. Le contexte sera différent. Ouais. Là, on est dans une dynamique. Bello n'est pas à l'origine de cette dynamique, mais il est au cœur de cette dynamique. Bon, il est logique qu'il continue et puis qu'il finisse ce cycle lors du dernier match contre le Loup. Après la trêve, on rentrera dans un autre bloc et là il y aura sûrement quelque chose de différent à lancer, et ce qui va peut-être permettre après ça dépendra aussi de son état de forme. On ne sait pas aussi dans quel état il est vraiment. Benjamin dit qu'il est bien, mais bon, il faut quand même qu'il le montre aussi sur le terrain, quoi.
Et puis, excusez-moi, mais Anthony Bello n'est pas devenu Boden Barrett non plus sur le mois dernier, donc il y a des très bonnes prestations. On parle quand même d'une séquence assez courte, hein. c'est les 3-4 derniers matchs, donc voilà.
On parle de Noël jusqu'à aujourd'hui,
voilà.
En ce moment, c'est ça,
c'est quand même assez court avec des matchs qui n'étaient pas tous des matchs d'une complexité folle, hein. Je pense notamment au match de Challenge. Donc
le Scarlett,
voilà,
le Black Lion.
C'est très bien, je ne minimise pas ce qu'il a fait, mais
à Castres,
quand même un peu de mesure.
À Castres, c'était un test quand même.
Je suis d'accord. C'est sans doute le test, et il est concluant.
Et pour gagner à Castres, il fallait un buteur qui fasse qui ait un gros pourcentage. Il l'a eu, contrairement d'ailleurs aux Castrés, hein, qui ont lâché 10 points et qui s'en mordent les doigts. Donc là, il fallait vraiment qu'à ce poste-là, le gars tienne la route, et il l'a fait.
Juste pour finir, Fred a raison. Il est tout de suite, on ne va pas dire qu'il marche sur l'eau, mais
il est bon.
il est bon, mais il joue aussi avec ses qualités, mais aussi les défauts qui sont les siens, on les connaît. Hein. Donc, sur la longueur de jeu au pied, il n'a pas, pas multiplié par deux la longueur de son coup de pied. Mais par contre, il a des qualités qui sont là, et tout de suite, il en tire profit. Mais il a quand même aussi des défauts, et peut-être que Jordan Pileta, en effet, a d'autres qualités, aussi des défauts, mais bon. Pour l'instant.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est pour Clermont, enfin de pouvoir peut-être disposer de deux ouvreurs de bon niveau jusqu'à la fin de la saison. Jusque-là, on avait quand même un numéro 1 et puis un numéro 2, c'était assez clair. Si on peut avoir deux numéros 1 bis, comme ça existe quand même dans beaucoup de clubs, hein, ce poste-là, c'est assez fréquent d'avoir des ouvreurs qui se challengent, où il y a une rotation à ce poste. Si l'ASM peut avoir ça, c'est quand même tout bénef.
Et ça rassure pour la saison prochaine, où il est de moins en moins question, pour ne pas dire plus question, de recrutement haut de gamme à ce poste-là. Il se donnerait un an de plus, donc ça permettrait d'avoir...
Il faudrait que tu parles dans le micro.
Pardon, ça permettrait d'avoir une saison supplémentaire avec ces deux joueurs, même si Jordan Pileta aura un an de plus.
Alors, chose favorable, c'est que Belot aussi est capable de jouer au centre. Il a fini le match à Castres au centre, ce qui est aussi une option, ça offre une nouvelle option aussi à Urios. Hein.
La polyvalence, c'est un atout. Oui.
D'autant qu'à ce poste, il y a deux blessés de graves blessés. Il y a Erito et Simone qui sont absents pendant encore X semaines. Donc ça lui laisse là aussi la possibilité d'associer les deux.
Qui veut voyager loin ménage sa monture. Est-ce que c'est pas la bonne nouvelle pour Christophe Urios de se dire qu'il va pouvoir titulariser Bello au cœur de l'hiver là, et ménager un peu Jordan Pileta au moment où on a le plus de blessures et pourquoi pas ressortir son ouvreur un peu plus tard dans la saison au printemps.
Non mais ça peut même être plus intelligent que ça. Je dis pas que c'est pas intelligent.
Non, je vois ce que tu veux dire quand même.
Mais on n'est pas obligé d'en mettre un dans le formol pour le préparer pour plus tard. Mais sur la gestion et y compris dans un match en fait. Hein, Jordan Pileta, il est aussi capable de. Il peut aussi passer à côté d'une prestation auquel cas on fait rentrer un ouvreur derrière qui prend le relais, qui est performant. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir jongler sur ces deux ouvreurs.
Alors, je ne vais pas parler de longueur de jeu au pied comme tu l'as fait Christophe tout à l'heure, mais plus de réussite au pied dont tu me parlais Didier en précisant qu'effectivement Anthony Bello c'était 100% ce week-end à Castres. Christophe, en préparant ce podcast, on a regardé les stats d'Anthony Bello la saison dernière et cette saison en termes de réussite au pied. C'est pas tout à fait le même joueur. Hein.
Ah, complètement. On est passé de vas-y, redonne
68%
chiffres.
La saison dernière, 83% cette saison.
Voilà. Tout est dit. Hein. On sent un joueur qui est plus en confiance, qui a plus en réussite. Et voilà.
C'est une phase ascendante ces dernières semaines en plus, parce qu'il avait commencé la saison sur des bases pas très élevées.
Ouais.
Notamment à Oyonnax, je crois qu'il y a eu un peu de déchets contre.
Je crois. Non, parce que c'était Plisson qui avait débuté.
Il était remplaçant, Oyonnax.
Il était remplaçant, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est en meilleure réussite et que ça compte. Et puis ça rassure aussi tous ceux qui jouent autour de lui. Hein. C'est indéniable. Hein. Et on parle beaucoup de son jeu au pied, mais aussi dans le jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'animation. Et qui avait des combinaisons qu'on voyait peut-être moins l'année dernière, qui étaient moins huilées. Alors après, il faut rester prudent, parce que la semaine dernière à Bilici, il y a eu 2-3 couacs dans leur lancement de jeu. Mais c'est en train de progresser là aussi, et il y est pour quelque chose.
Ça travaille. On a fait le tour sur Anthony Bello, messieurs ? Ok, on va passer au top flop.
Le tour, vélo.
Ouais, vélo, tour. Le tour du vélo.
Très bien, merci messieurs. Top flop, Fred, top ou flop toi ?
C'est un top, un top 14 même, si je puis dire. Je voulais saluer cette saison de top 14 qui propose quand même des matchs. Alors, ils sont peut-être pas tous d'un niveau incroyable, mais en tout cas, il y a du suspense. Et ça, c'est quand même l'essence même du sport. J'en veux pour preuve ce week-end, hein, ce qu'on a vécu. Je regardais sur les 7 matchs. Si je mets de côté le Lyon-Perpignan où il y a eu 12 points d'écart, ce qui n'est pas non plus un écart incroyable, tous les autres matchs se sont joués à moins de 5 points dont le match de l'ASM dont on parlait à Castres. On voit des équipes comme Oyonnax qui sont en difficulté, mais qui ont failli gagner à Bayonne, et on sait que c'est difficile d'aller gagner à Bayonne. Tous les résultats sont possibles. On a un classement qui est serré comme il ne l'a sans doute jamais été entre la tête et la queue de peloton. Donc tout ça est positif. Alors peut-être pas pour les clubs, mais notamment pour l'ASM, puisque la moindre victoire ou la moindre défaite vous fait basculer d'un côté ou de l'autre, mais pour le spectateur, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà, alors je voulais en conclure que tu étais spectateur, parce que c'est un top pour les spectateurs, mais je pense que c'est un vrai flop pour les parieurs, en revanche, parce que ça devient nettement plus complexe de trouver les résultats. Toi, Didier, top ou flop ?
Eh bien, ce sera un top aussi au sujet du match d'hier soir entre le Racing et le Stade Toulousain. C'est comme dans la lignée de ce que vient de dire Fred, ça a donné un match vivant, alerte, avec beaucoup d'occasions, beaucoup d'essais, beaucoup de rythme, beaucoup de jeux. Ça allait d'un camp à l'autre, et puis avec un Stade Toulousain animé par un Dupont dont on se rend compte qu'il est quand même encore sur un petit nuage, quoi. Il a survolé le match de manière incroyable. Donc effectivement, là, c'est dans cette lignée-là où on a vu un match vraiment plaisant du début à la fin et intéressant.
Très beau match de rugby, ouais. Christophe, top ou flop ?
Alors, une fois n'est pas coutume, j'attribue un top à un arbitre.
Il n'y a pas de flop aujourd'hui, c'est que du top.
Eh oui, c'est que du top.
C'est bien.
On a la banane,
c'est
il fait
positif,
beau.
C'est voilà. Ça. C'est pas souvent, donc à Monsieur Barbeau, Adrien Barbeau, qui a arbitré Castres à l'ASM.
Pardon Christophe, c'est pas souvent qu'on attribue un top à un arbitre ou c'est pas souvent qu'il fasse beau ?
Non, qu'on accorde un top à un arbitre.
Ouais, ouais.
Franchement, pour avoir revu le match, après l'avoir vu en direct, cohérent de bout en bout. Et décision juste, rien qui a été controversé à ma connaissance. Et je pense que l'ASM peut lui attribuer un double top parce que figurez-vous que c'était déjà l'arbitre de Montpellier à ASM au mois de novembre. Donc c'est un arbitre porte-bonheur.
Il faut le mettre à Bayonne celui-là.
Il faut le mettre à Bayonne sur les déplacements à venir. Donc Monsieur Barbeau, bravo. Alors qu'il a très peu d'expérience en top 14. Hein. Il est arrivé il y a 2 ans, je crois, dans le panel de l'arbitrage français.
Christophe, je pense qu'il est essentiel effectivement de rappeler que les arbitres sont une composante essentielle des
jeux. Il faut le dire.
Sans eux, il n'y aurait pas de match. Merci messieurs, on va suivre l'actualité de Clermont, bien sûr tout au long de la semaine. Dernier point de ce podcast, réception de Lyon. Est-ce qu'on va pouvoir juger de la progression de l'équipe de Christophe Furios en une saison, en un an ?
Bah c'est le moment, oui. C'est un autre moment de vérité de la saison et à eux de ne pas le louper comme ils avaient loupé ici contre Toulon après avoir gagné à Montpellier.
Voilà, c'est comme l'a écrit Didier dans nos colonnes ce matin, ça rappelle, c'est la configuration de la victoire à Montpellier et la réception de Toulon. On a vu le résultat, maintenant on va voir si l'équipe a mûri.
Une équipe avertie, on va en avoir deux.
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Fred, la densité, l'homogénéité du championnat, on a l'impression que chaque réception pour les Clermontois, ça a fait basculer d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est-à-dire, soit on a un prétendant au top 6, soit on lutte pour le maintien, quasiment. Bah,
pour Clermont, c'est un peu différent parce qu'ils n'ont plus droit à l'erreur à domicile. Il faut qu'ils fassent carton plein à domicile d'ici la fin de la saison pour espérer encore intégrer le top 6. Et ça ne suffira pas. Il faudra aussi encore gagner une voire deux fois à l'extérieur.
C'est la différence par rapport aux autres. Didier a raison. C'est quand on a du retard, on est un peu plus dos au mur que les autres. Quand on est devant,
sauf d'aller gagner partout à l'extérieur, mais bon, ça,
voilà. Déjà d'aller gagner à Castres, tu gagnes pas si souvent,
non, déjà, et c'est... puis ils en sont déjà à 2 victoires et 1 nul à l'extérieur. Ça faisait une perte de saison qu'ils n'avaient pas eu ce genre de bilan en déplacement.
Et Lyon, c'est seulement 3 points devant l'équipe de Yona qui est à la 13e position. C'est une saison très compliquée pour les Lyonnais.
Elle est curieuse, elle est un peu paradoxale. En Champions Cup, ils sont plutôt pas mal, ils se sont qualifiés. Et c'est un effectif qui est plutôt intéressant. Ils s'étaient renforcés à plein de postes. Mais bon, on sent que la mayonnaise a du mal à monter. Avec un nouveau manager, un nouveau staff. Et ça a du mal à prendre.
Elle a eu d'autant plus de mal à prendre qu'ils ont eu, eux, une cascade de blessés à un moment il n'y a pas si longtemps que ça qui les a
c'est en train de revenir là,
qui les a plombés de manière considérable. Alors c'est en train de revenir, sûrement qu'il va falloir peut-être un peu de temps pour que ces joueurs retrouvent leur niveau qu'ils avaient avant leur blessure.
Quand on regarde les dernières sorties de Lyon, c'est assez terrible quand même pour les joueurs du Loup. C'est défaite 22-20 face au Racing. Bon, là, il n'y a rien d'infamant, mais derrière, c'est défaite 38-20 à Oyonnax. C'est défaite 29-14 à Castres. C'est défaite de 2 points à Bristol, puis défaite 46-10 à Bordeaux. Défaite 45-0 à Toulouse. Et défaite 39-24 au Saracens. Ça ne tourne pas du tout, Lyon, à l'extérieur pour l'instant.
Ouais, ils ont du mal en déplacement. Ils sont un peu plus maîtres de leur jeu quand ils jouent à Gerland. Mais là, en déplacement, c'est vrai que pour l'instant, c'est une équipe qui se cherche.
Tu le sens, le piège, là, se refermer sur l'ASF. Là,
voilà.
Bon, oui, on va conclure là-dessus. Donc avec,
le piège à loup, bien sûr.
Oh oui,
ah, bravo, Christophe. On va terminer là-dessus, c'est parfait. Merci, messieurs, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
Au revoir.